La question du jour, la CIA vient de rendre public des milliers d'archives personnelles d'Oussama Ben Laden. Ces archives avaient été saisies par l'armée américaine en mai 2011 au Pakistan. Au cours du raid qui avait conduit à la mort du chef d'Al-Qaïda, de nombreux disques durs et autres dispositifs de stockage retrouvés dans le complexe d'Abbottabad ont été récupérés. Bonjour Abdelhassim Al-Difraoui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, du djihadisme, de sa propagande. Que nous apprennent ces archives? Pourquoi les rendre publiques maintenant? On va essayer de comprendre tout ça. D'abord, que contiennent ces documents et qu'est-ce qu'ils nous apprennent?
Il me semble qu'il faut d'abord mettre peut-être ces archives dans une perspective historique. C'est-à-dire là, il s'agit de troisième volet des archives publiées, plus que 100 000 documents, qui sont très divers, la collection de films personnels d'Osama Ben Laden, mais surtout aussi son journal, des correspondances avec des autres leaders d'Al-Qaïda, des vidéos personnelles, donc les mariages de Hamza, le fils de Ben Laden, qui aujourd'hui sont censés de prendre la succession d'Osama. Dans une perspective historique, ces documents sont importants puisque on oublie ça souvent, les évolutions actuelles du djihadisme, donc Daesh, le pseudo-califat, trouvent ses racines dans le 11 septembre, dans la pensée de Ben Laden. Donc les historiens vont mettre des années et des années pour déplucher les archives, pour trouver des choses pas encore connues, mais elles sont très importantes pour l'histoire mondiale, dans le sens où qu'il explique des développements actuels.
Ça va prendre beaucoup de temps, évidemment. On a retrouvé donc ce journal personnel de Ben Laden qui évoque sa vie quand il est assez jeune. Il y évoque notamment son expérience en Angleterre, en particulier sa visite lorsqu'il a 23 ans de la maison de Shakespeare. J'étais impressionné, écrit-il, c'était une société différente, moralement décadente. J'ai réalisé qu'un vrai musulman ne devrait pas se rendre en Occident. Il y a des documents, visiblement, Abdelhassim Al-Difraoui, qui montreraient que Ben Laden continuait à être actif et à préparer des actes terroristes contre les États-Unis.
Oui, il a essayé, c'est-à-dire qu'il était relativement isolé, mais il a essayé de exercer le contrôle sur Al-Qaïda et ses différentes succursales. Donc là, on trouve des documents, des échanges avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec la succursale au Yémen. Donc il essaie de maintenir un certain contrôle centralisé. Mais il y a autre chose qui frappe quand même dans les archives, qui est très important. Les archives démontrent aussi l'hypocrisie totale de Ben Laden et de l'autre leader djihadiste. Peut-être un jour, on va constater la même chose avec les archives des pseudo-califes. À savoir,
pourquoi vous parlez d'hypocrisie?
L'hypocrisie totale, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'écouter si on vit sous Daesh ou sur le djihadiste, on n'avait pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit d'être exposé à des films occidentaux, mais Ben Laden lui-même permettait tout.
Visiblement, il avait une longue liste de films, et y compris d'ailleurs des films pornographiques.
Des
visiblement.
Films pornographiques,
on n'a pas souhaité diffuser d'ailleurs cette liste du côté des États-Unis.
Oui, mais ça c'était plutôt pour, je pense, pour des questions de droits d'auteur, comme pour d'autres films. Mais surtout, c'est-à-dire, ces leaders djihadistes prêchent quelque chose et font complètement autre chose. Ouais. Donc ça, c'est toujours intéressant et c'est toujours important de souligner que leur pureté morale, elle est toute que relative.
C'est ce que montrent très clairement ces archives. Abdelhassim Al-Difraoui, autre document, une vidéo de mariage. Le mariage de l'un des fils d'Oussama Ben Laden, Hamza. Il a à peine 20 ans. Jusqu'ici, on ne connaissait que quelques photos de lui très jeune. Aujourd'hui, il doit avoir 27, 28 ans. On y découvre une mise en avant de ce fils qu'on voit au milieu d'autres grandes figures d'Al-Qaïda. Je pense à l'Égyptien Mohamed Istanbouli, par exemple. Ça montre assez clairement cette intention d'Oussama Ben Laden de faire de son fils le futur chef d'Al-Qaïda.
Oui, très clairement. Mais là, il faut pas oublier qu'il avait déjà 10 ans auparavant une autre vidéo d'un mariage d'un fils de Ben Laden. Mais c'est clair, il y avait la volonté de Ben Laden que quelqu'un de la famille reprend le flambeau. Aujourd'hui, Hamza, elle est mise en avant comme la nouvelle génération de djihad, la nouvelle génération d'Al-Qaïda, et ça aussi spécialement en vue de la concurrence avec Daesh. Donc Al-Qaïda veut démontrer que c'est pas une organisation hangar, qu'il y a des jeunes qui adhèrent et qu'il y a de nouveaux leaders charismatiques.
Ouais. Mais attendez, qui veut le mettre en avant? Est-ce que c'est Al-Qaïda ou est-ce que c'est les États-Unis? Parce qu'on peut aussi s'interroger sur cette action qui consiste à diffuser ces images maintenant de la part des États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part de l'administration américaine le désir de commencer à fabriquer d'une certaine manière, dès aujourd'hui, la figure de l'ennemi de demain?
Oui, mais c'est un peu de la spéculation, c'est-à-dire il y a des gens qui disent la CIA a sorti ses archives actuellement parce que pour faire diversion des embrouilles russes de Donald Trump. Mais il faut pas oublier que ces archives sont mis public suite à une loi de l'année 2014. Ouais. Donc c'est la troisième ou la quatrième fois que de parties de ces archives sont mises en ligne. Mais c'est suite à une loi qui date déjà de 2014 qui oblige la CIA de vérifier ces archives et les mettre en ligne et de publier au fur et à mesure pour que les chercheurs américains, pour que le public mondial comprend un peu mieux la nature du djihadisme et d'Al-Qaïda.
Et quelle est la nature aujourd'hui exacte? Quel est le rôle d'Hamza dans Al-Qaïda?
Ça, c'est très difficile à dire. Donc, on ne connaît pas son rôle opérationnel, mais on sait très bien que l'année dernière, il y avait plusieurs speeches qui étaient publiés, soit en format audio. Je ne pense pas qu'il y avait des vidéos, parce que c'est des images, mais en format audio, où lui-même s'est mis en avant comme l'avenir d'Al-Qaïda, comme le nouveau leader charismatique. Donc, Hamza occupe aujourd'hui une première place dans cette pseudo-cosmologie d'Al-Qaïda.
Alors, il y a des chercheurs du think tank américain Foundation for Defense of Democracy, Thomas Jeslin et Bill Roggio, qui ont eu accès à ces documents avant qu'ils soient déclassifiés. Et ils fournissent visiblement des informations sur les relations entre Al-Qaïda et l'Iran chiite. Qu'est-ce qu'on apprend précisément sur la nature de ces liens? Et est-ce que ces informations pourraient expliquer peut-être l'attitude particulièrement méfiante, disons-le comme ça, de la nouvelle administration américaine à l'égard de Téhéran?
Là, peut-être, il y a une vraie volonté politique de la part de la CIA de sortir ses archives actuellement. Parce que les archives démontrent, c'est que les chercheurs savaient depuis longtemps que l'Iran et l'Al-Qaïda, malgré une méfiance énorme, et sont essayés de s'instrumentaliser mutuellement. Nous, on savait depuis très longtemps qu'Al-Qaïda, après 2001, après l'invasion américaine en Afghanistan, que l'Iran servait comme terre de repli pour certains leaders d'Al-Qaïda, que l'Iran maintenait des relations ambiguës avec Al-Qaïda, mais tous les deux ont essayé de s'instrumentaliser mutuellement.
Comment? On a un exemple? Est-ce que là, les archives disent quelque chose justement sur cette relation un peu ambiguë?
Les archives disent par exemple que des leaders d'Al-Qaïda ont trouvé refuge en Iran, mais en même temps, il y avait par exemple, les archives démontrent aussi une prise d'otage par Al-Qaïda d'un diplomate iranien, parce qu'Al-Qaïda était mécontent de l'arrestation de certains de ses membres par les Iraniens. Mais c'était clair qu'à un certain moment, il y avait une certaine collusion, comme les anglo-saxons disent, une certaines communautés d'intérêts entre l'Iran et Al-Qaïda.
Toute dernière question rapidement, Abdelhassem El Difraoui. Daesh, on le voit, est dans une dynamique de repli après la chute de Mossoul, de Raqqa. L'organisation est désormais confinée dans cette région des Rezors. Alors, même si évidemment Daesh n'est pas encore éradiqué, mais est-ce qu'on pourrait observer une forme de retour en force d'Al-Qaïda avec ce repli Daesh?
Oui, peut-être, mais ce qui m'importe réellement, c'est-à-dire, nous, on se concentre soit sur Al-Qaïda, soit sur Daesh, et notre grande erreur, c'est qu'on regarde pas la mouvance djihadiste dans sa globalité. Peut-être demain, c'est Boko Haram ou le Shabab qui vont prendre le relais. Donc, si on veut combattre le djihadisme, il faut vraiment regarder tous ces mouvances et confronter le problème à ses racines et pas se concentrer sur un seul groupe. Et ses racines, ça veut dire le combattre idéologiquement, mais aussi aider les pays où les djihadistes sont implantés socio-économiquement.
Merci beaucoup Abdelhassim El Difraoui d'être passé dans nos studios. Le djihadisme qui était paru au PUF, Al-Qaïda par l'image.